Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Les travaux du comité préparatoire du dialogue national se sont ouverts mardi 23 août à Kinshasa. Le facilitateur Edem Kodjo a déclaré que le dialogue politique entre Congolais devra se dérouler dans le respect de la constitution congolaise et conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, l'opposition républicaine de Léon Kengua Dodo refuse de participer au dialogue politique dans son format actuel, estimant que ce forum n'inclut pas tous les partis politiques. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour intervenir en direct, mais les débats se déroulent également sur la page de Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Claude Nsala est à la mise en monde de cette émission. Julie Pesa Bongonda est au standard et à la réalisation. Et Pierrot et la Mégie vous la présentent sous la supervision des Julien Damouini. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radioetapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Trois mots reviennent quand on parle de ce dialogue national. Il y a d'abord le respect de la Constitution, la résolution 2277 et les caractères inclusifs du dialogue. C'est voilà autant de les trois mots qui divisent la classe politique lors dans la tenue de ce dialogue. Il y a les facilitateurs qui a évoqué le respect de la Constitution ainsi que la résolution 2277 dans son mot d'ouverture. Mais Léon Kengua Dodo avec l'opposition républicaine revient sur les caractères non inclusifs de ces dialogues. Que pensez-vous de cette actualité? Vous pouvez également déposer votre commentaire sur la page de Facebook des Paroles aux auditeurs. Alain Boloudoua, vous êtes à Kinshasa. Arsène est à Djibout. Et dans ce studio, nous avons le professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Pierre.
Les trois mots clés. On peut dire qu'on tourne autour de ces trois mots depuis plusieurs jours, et même quand les travaux sont lancés, on tourne toujours autour de ces mots, respect de la Constitution, résolution, les caractères inclusifs. Quelle analyse vous faites d'abord de ces différentes prises de position autour de ces trois mots?
Merci, Thiro, pour l'occasion que vous me donnez de participer à cette émission. Ce qui est vrai avec le dialogue, c'est qu'en fait, ils sont régis par les textes et tout le monde accepte qu'il faut respecter la Constitution qui est le texte fondamental. La résolution également fait allusion à la Constitution. Et il s'agit là de deux principes de base qui devront guider les travaux du dialogue. Mais il y a une troisième qui est le caractère inclusif du dialogue. Et si vous suivez très bien le facilitateur Adam Kodjo, il avait déjà préconisé que le dialogue allait être un dialogue de tout le monde. Et dès le départ, il avait émis le vœu de voir l'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi participer à ce dialogue. Et il avait déjà dit qu'un dialogue sans Tshisekedi ou sans le DPS, n'avait pas son sens. Voilà pourquoi tout ce temps est passé parce qu'il fallait que l'opposition et le pouvoir, l'opposition incarnée par Tshisekedi, avec tous les autres, participent au dialogue. Ceux-ci avaient un certain nombre de conditions qu'ils ont posées pour la participation au dialogue. Ils se sont dit, on n'ira pas au dialogue les yeux bandés, on n'ira pas au dialogue avec un couperet à la gorge. Mmh. Il faut un certain nombre de préalables. Et aujourd'hui, on en est là. Alors, la réaction de Kengua Dodo, je crois qu'il faut la situer sur une logique simple. Kengua Dodo, avec l'opposition républicaine, ont participé à ce qu'on appelait les concertations,
mm-hmm.
ce qu'on peut aussi appeler le dialogue aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Je crois qu'il faut d'abord tirer les leçons à la participation de l'opposition républicaine à ce dialogue qui n'était pas un dialogue de tout le monde. Et aujourd'hui, on a affaire à un autre genre de dialogue.
Mm-hmm.
Faut-il recommencer la même erreur? Faut-il participer à un deuxième round de dialogue sans une bonne partie de l'opposition? C'est là la question fondamentale que pose évidemment ce qu'il nous
dit. Mais quand on regarde le point 10 de la résolution 22-77 qui souligne l'importance d'un dialogue véritable pour que les élections présidentielles et législatives soient pacifiques, crédibles et conformes à la Constitution, dans cette résolution, on revient sur l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. La résolution met l'accent sur ça en estimant qu'il faudrait dialoguer pour que ces élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution. On revient encore là au problème de tenir ces élections plus tard, l'élection présidentielle le 19 septembre, comme le prévoit la Constitution, et qu'on puisse avoir un nouveau président en 2016. C'est ça l'esprit de la résolution 2277, c'est-à-dire qu'il faut privilégier ces élections-là. Le facilitateur revient aussi pour dire mais le dialogue doit s'exprimer dans le respect de la Constitution et de la résolution. Cela veut dire que nous devons dialoguer, à ma connaissance, c'est pour qu'on arrive à dégager un consensus autour de l'élection présidentielle. Si on doit la tenir en respectant la Constitution, cela veut dire en 2016, mais les faits sur terrain montrent qu'on n'est pas aujourd'hui en mesure, à moins que les délégués lèvent l'option, qu'on puisse tenir ces élections en 2016 pour rester dans l'esprit de la Constitution et de la résolution.
Non. Je n'ai pas cette lecture que vous faites là. J'ai plutôt une autre lecture. Quand vous lisez les rapports de l'OIR sur le fichier électoral, ce rapport nous donne trois options. Une première option, qui est évidemment l'option de la fiabilisation du fichier électoral. Il est possible d'enlever le doublon, il est possible de nettoyer le fichier électoral, et donc sur base de l'ancien fichier, n'est-ce pas, de 2011, d'organiser des élections. Il est donc possible de faire ce travail. Mais il faut pour cela que la classe politique se mette d'accord sur le fait qu'on va organiser l'élection présidentielle avec, disons, sans le nouveau majeur. Mais dire qu'il est quasiment impossible, ce n'est pas vrai. On peut organiser les élections avec l'ancien fichier après l'avoir nettoyé. Et donc, si vous lisez l'esprit de cette résolution, et aussi la Constitution elle-même, elle vous dit qu'il faut organiser les élections. En ce moment-là, il n'y a qu'une seule option qui est possible, c'est la première option. Celle. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la CENI s'est impliquée non pas dans la première option, encore moins dans la deuxième, mais dans la troisième option qui est celle pratiquement.
Et c'est pour ça que je parlais des faits qui sont, les faits qui sont sur terrain, c'est que la CENI est dans cette troisième option de nouveau fichier électoral qui est en train d'être constitué.
Voilà, à un nouveau fichier électoral. Alors, cette troisième option a comme des avantages qu'elle est trop coûteuse, à la fois en temps, en argent et en matériel. D'où la question, pourquoi avoir choisi une option qui nous met, évidemment, en dehors de la Constitution, mais qui va aussi nécessiter beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Il y a là, véritablement, une possibilité pour la CENI de revoir ses calculs, si c'est encore possible d'organiser les élections en prenant la première option qui a été préconisée par l'ONU.
Et quand le facilitateur évoque la Constitution, la résolution 2277, on a compris le secrétaire général de la Chambre des revenus, tout le monde revient sur ça. Et quand on regarde les faits, comme je le disais tout à l'heure, la CENI s'est engagée dans cette révision du fichier électoral avec des nouvelles cartes d'électeurs, où le président de la CENI l'a dit, et nous avons reçu les rapporteurs dans ce studio, il a dit, mais écoutez, pour le moment, on ne peut tenir les élections qu'à la fin de la révision du fichier électoral. Est-ce que le dialogue peut en réalité se tenir si par deux bases, là, le premier base, la Constitution et la résolution 2277?
Alors, le dialogue devait mettre sur la table les trois options. Ces options sont des options préconisées par le rapport de l'OIF. Et quand vous regardez dans le fameux rapport de l'OIF, ils établissent, c'est vrai qu'il y a 450 000 doublons, il y a 1,6 million d'électeurs qui sont décédés de 2011 à 2015. Il y a 8,5 millions de nouveaux majeurs qui seront exclus. Il y a les Congolais de l'étranger qui n'étaient pas concernés, qui ne seront pas non plus concernés. Et les rapports de l'UIF concluent, évidemment, qu'il y a là trois options possibles. Alors, quand vous regardez la première option, c'est l'option qui consiste d'organiser les élections présidentielles dans le délai avec le fichier de 2011. Un fichier qui est fiabilisé et qui est stabilisé. Et là, évidemment, il y a une deuxième option qui est celle, n'est-ce pas, d'une révision partielle du fichier électoral. Mmh. Alors, la troisième option qui est celle envisagée par la CENI, c'est celle du refond du fichier électoral qui est susceptible, selon la CENI, de prendre au moins 16 mois, sinon plus. Et dans ce cas, on enrôlerait tous les Congolais qui remplissent les conditions d'éligibilité.
Voilà.
Si vous apprenez, si on emprunte la troisième option, franchement, les élections ne seront pas possibles. Mais elles ne peuvent pas être possibles
si on retient la première option.
Si j'ai compris nos amis qui parlent de dialogue, le dialogue devra entre autres lever l'option, n'est-ce pas, qu'il faudra adopter. Faut-il prendre la première, la deuxième
ou la troisième?
Si on prend la première option, ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout une période de transition, une période durant laquelle, évidemment, on pourra spéculer sur oui, mais qui va gérer cette période? Est-ce c'est l'ancien gouvernement qui n'a pas été à mesure d'organiser les élections dans le délai, ou faut-il mettre en place une autre équipe? Mais si, évidemment, on prend la première option, il n'y a pas du tout de période de transition.
Il n'y aura
pas de délai supplémentaire.
Alain Bolozoa, vous êtes ici à Kinshasa. Est-ce qu'on peut aujourd'hui revenir en parlant du dialogue, en mettant sur la table la question du respect de la constitution, de la résolution, avec les explications du professeur? Si déjà dans les dialogues on estime qu'on ne peut pas tenir les élections cette année, faudrait-il aujourd'hui mettre dans le discours des uns et des autres autour de cette question, en disant que le dialogue va se dérouler dans le respect de la constitution, dès lors qu'on sait que le point majeur dans le respect de la constitution, c'est les délais sur le mandat du chef de l'État, qu'on estime au même moment qu'on ne peut pas tenir? Est-ce que cette question est aujourd'hui d'actualité, le respect de la Constitution, dans ces dialogues qui dont les travaux ont commencé le mardi? Alain Bolozoa, bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Je voudrais quand même apporter une précision, je suis présentement ici. J'ai suivi l'intervention de l'invité qui est sur place. Et moi, personnellement, je considère que si nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, c'est vrai que son analyse est formative, c'est basé sur les exigences ou ce que les autres ont dit. Mais si nous devons intégrer d'autres paramètres qui apparaissent, de mon point de vue, plus dynamiques que la Constitution ainsi que la résolution 2077, on va se rendre compte que, quelles que soient les options que nous aurons à lever, on va violer la Constitution. Là, c'est une évidence que personne ne peut s'en détourner. Ce qui est important de mon point de vue, c'est que nous devons savoir qu'il y a certaines dispositions de la résolution 2077 qui apparaissent surannées de mon point de vue. Parce que si on dit qu'on doit respecter la Constitution et qu'on doit se référer à l'avis technique de la CENI, eh bien, on ne pourrait avoir des élections en 2016 sans violer la Constitution. Soit on va avec le fichier qui apparaît déjà anticonstitutionnel, de mon point de vue, du fait que ce fichier n'a pas intégré l'esprit de la Constitution dans son article 5. Deuxièmement, il y a le problème technique qui mettrait aussi en mal le fonctionnement de la CENI, dès lors que le plan opérationnel proposé par la CENI ne pourrait être adapté que pendant une longue période. C'est-à-dire, même si la CENI aujourd'hui s'adaptait à la position que prendront les participants au dialogue, eh bien, il lui sera difficile de mettre en place un plan opérationnel réaliste pendant les 3 mois qui nous restent. C'est-à-dire, convoquer l'électorat, préparer, déployer les gens, les former, et au finish, avoir les élections. Ce qui est important de mon point de vue, c'est que nous encourageons le dialogue. Je sais que dans ces dialogues, si tout le monde est sincère, tout le monde sait déjà d'emblée qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Et ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est lever des options. Soit, par exemple, soutenir la troisième option, qui voudrait c'est que nous ayons une période transitoire qui va nous permettre d'organiser les élections pour non seulement respecter l'article 5, mais aussi permettre à ce que l'environnement soit assaini, que nous n'ayons pas des troubles après les élections, parce que nous savons tous que si les élections étaient instituées, c'était plus pour mettre fin à la crise de légitimité et non se contenter
à un peu alors, ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit sincère en disant que si on évoque cette question des dialogues, il faut carrément écarter dans le discours du dialogue la question du respect de la Constitution, parce que je vois mal comment on peut s'atteler à parler du respect de la Constitution dans ces dialogues.
Effectivement, ce que moi je trouve de pas juste, de pas correct, c'est que l'on prenne la population congolaise comme des canards sauvages. Nous savons tous qu'on ne pourra plus respecter cette constitution dès lors qu'il y a des impondérables qui vont empêcher à ce que nous la respections, surtout en ce qui concerne les élections. On doit dire à la population que dans ces dialogues, il sera question des options politiques qui vont aller au-delà des dispositions pertinentes de la constitution. Aujourd'hui, nous savons tous que la population n'a pas besoin d'avoir un respect strict de la Constitution, mais au moins d'avoir l'alternance. Et cette alternance doit passer impérativement par les élections. Et ce que nous voulons, c'est que la classe politique soit au centre. Tous ceux qui vont prendre part à ces dialogues savent très bien qu'à la fin de ces dialogues, ils vont lever des options, et ces options auront tendance à élargir la période électorale ou le cycle électoral, et à la fin, nous aurons des élections, soit en 2017, soit en 2018. Mais lorsqu'on dit on doit respecter la résolution 2077, bon Dieu, mais cette résolution 2077 est déjà violée, parce que nous savons tous qu'il n'y aura pas d'élection en 2016. La Constitution également. Et ce qui est important, nous devons savoir qu'en politique, le réalisme est une vertu. C'est que moi je voudrais demander à la classe politique d'être honnête envers la population qui détient encore le pouvoir de décider sur la majorité comme sur l'opposition. Mais lorsqu'on cherche à voiler la vérité, lorsqu'on cherche à se cacher, eh bien, on doit savoir que c'est la population qui va décider en dernière instance.
Merci beaucoup, Alain. Il faut qu'on soit honnête, qu'on te dise déjà, que ce soit la résolution 2077, que ce soit la Constitution, il faut quand même que la classe politique dise la vérité à la population qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de respecter cette Constitution. Arsène, en partant de ce qu'Alain vient de dire, dès qu'on lève des options politiques, que reste-t-il encore de la Constitution comme la loi fondamentale? Si on peut avoir des options politiques qui ne tiennent plus compte de ce que la Constitution qui est considérée comme un consensus sorti d'une longue crise, quand même, il faut qu'on rappelle que la Constitution vient d'une longue crise avec un accord global inclusif, et dès lors qu'on peut avoir encore d'autres accords qui sont en dehors de la Constitution, alors, est-ce qu'elle pourra encore tenir cette Constitution, Arsène, à l'issue de ces dialogues?
Merci beaucoup pour la parole, M. Pierrot. Je vais vous donner d'abord ma petite lecture sociopolitique du pays avant de répondre à votre question. Moi, je dis ceci. Voilà comment je considère un peu la classe politique actuelle. La classe politique actuelle est divisée en trois groupes. Le premier groupe que je considère, le mouvement populaire de la Révolution. Ces gens-là, bien que mis dans plusieurs partis politiques, ce sont ceux qui contrôlent le Sénat. Il y a le groupe UDPC allié. Eux, ils contrôlent la rue. Il y a le groupe que j'appelle, que c'est bien le maréchal appelé les rebelles, qui constituent le PPRD et FDL alliés, qui contrôlent le Parlement. Tout ça, ça donne presque plus de 500 partis politiques. Et ces 500 partis politiques, en réalité, n'ont pas d'idéologie, n'ont pas vraiment de sens de quoi, qu'est-ce que je peux dire, d'une ligne qu'ils sont en train de suivre. Ces 500 partis politiques-là, ce ne sont que les nombres des leaders politiques de cette nation qui ont eu la chance d'attraper une position politique. Et en plus de ça, ce que je peux mettre comme réserve, il y a le MLC qui dit non, pour le MLC, le dialogue ne lui dit rien. Bon, dans tout ça, vous verrez quelque part qu'il n'y aura pas inclusivité. Qui dit qu'il n'y aura pas inclusivité, ça veut dire que toute cette démarche qu'on est en train de faire n'est qu'une distraction. Et la solution, on parle beaucoup des résolutions. On parle de l'ONU, on parle d'Addis Abeba. Moi, je dis ceci. La classe politique a failli. En tête, le chef de l'État. Quand le chef de l'État a failli, qu'il comprenne que je n'ai pas réussi à donner au peuple congolais leurs élections, qui n'est que le droit le plus fondamental du citoyen congolais de choisir son chef. Donc, la Constitution dit ceci, à son article 75. C'est simple, c'est clair, c'est histoire-là est claire, il a failli, au lieu d'aller à la Cour constitutionnelle, commence à juger en pénal, on commence à arrêter les gens, parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose. Je préfère bien qu'on utilise l'article 75 et on va facilement résoudre le problème, parce que ça, c'est une élection. Et une élection qui est passée par référendum populaire. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Je crois que tout le monde qui veut respecter la Constitution ne peut passer que par là. Voilà un peu ma façon de voir les choses.
Merci beaucoup. Arsène, vous estimez que ici on a failli dans la mission parce que la constitution adoptée votée par référendum représentait on peut dire ainsi un consensus autour de la manière de régler ces questions de prise de pouvoir aussi, mais là vous estimez qu'il faut qu'on tire les conséquences en évoquant la Cour constitutionnelle. Pour vous, vous l'avez dit, qu'il faudrait aujourd'hui que les gens saisissent la Cour constitutionnelle pour dire voilà, on n'est pas en mesure d'organiser les élections dans les délais, comment on doit résoudre cette question, chacun tire la responsabilité du rôle qu'il aura à jouer dans cette affaire. Merci beaucoup Arsène Trésor, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour Trésor.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot.
Et quand on regarde dans ces débats, il y a d'un côté le respect de la Constitution qui voit en éclat, il faut qu'on se le dise, comme disait tout à l'heure Alain, et les caractères non inclusifs du dialogue. Pensez-vous aujourd'hui que le souci qu'on a autour de ce dialogue d'avoir des élections apaisées qui ne doivent pas être contestées, est-ce qu'avec ces départs, pensez-vous aujourd'hui que c'est possible?
Oui, merci Pierrot pour la parole accordée. Je salue l'invité qui est sur votre plateau. En fait, aujourd'hui, nous pouvons parler au moins de ce dialogue comme une route ou une voie de sortie par rapport à ce que nous nous retrouvons au moins, ce qui se retrouve au moins devant les Congolais aujourd'hui. La classe politique, comme disait au moins l'autre intervenant qui est ici, il nous dit que la classe politique congolaise doit savoir au moins dire la vérité aujourd'hui au peuple congolais. La classe politique congolaise, que moi je trouve, qui ne sait pas au moins dire la vérité, on ne peut pas continuer à mentir la population. Alors, nous, aujourd'hui, on nous dit que les dialogues qui doivent se tenir doivent au moins respecter la Constitution. Mais la Constitution, là, je dis, aujourd'hui, la Constitution qui exige au moins que les élections pouvaient se tenir après 5 ans renouvelables, qui on n'a pas pu au moins par rapport à ce qui se passe déjà, que le gouvernement n'a pas pu mettre les moyens pour que les élections soient tenues. Mais aujourd'hui, si nous acceptons au moins que nous puissions, que les politiciens ou les politiques de notre pays puissent au moins se mettre d'accord pour ces dialogues, c'est pour au moins arriver à décanter la situation, arriver au moins à trouver des concessions ou des options favorables, parce que normalement les élections ne peuvent plus se tenir dans les délais, ça c'est vrai. On ne peut pas au moins continuer à mentir les Congolais. Nous devons dire à la population clairement que nous devons partir au dialogue. Mais ce que je regrette, c'est quoi? C'est par exemple c'est que l'opposition républicaine est en train de nous dire que ces dialogues, ça doit être au moins inclusif, tout ça. Mais les dialogues, c'est inclusif, ça doit être inclusif, mais sinon c'est à chaque parti politique de comprendre au moins c'est quoi l'importance de ces dialogues aujourd'hui pour que tous puissent se mettre ensemble. Parce que s'ils continuent à exiger seulement des préalables qui s'imposent, à ce moment, on ne saura pas également mettre le Congolais d'accord et permettre à ce qu'il puisse parler ensemble et trouver au moins des options qui seront favorables pour permettre à ce que cette crise qui est devant nous, que nous puissions au moins décanter. Nous avons vu l'opposition républicaine qui était là lors des concertations nationales, qui a participé aux concertations nationales activement. Et c'est parce qu'à ce moment, il a trouvé ses intérêts, c'est ce que je suis en train de dire. À ce moment, il voit qu'au dialogue, il n'y a pas ces intérêts qui sont ouvertement brandis. Alors, il commence à se retirer. Et s'il se retire, il ne doit pas au moins exiger aujourd'hui et puis mentir les Congolais et se dire « Non, aujourd'hui, nous devons au moins nous retirer parce que les dialogues n'est pas inclusif. » Mais les concertations nationales n'étaient pas inclusives. Mais ils ont participé. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi? C'est de convaincre au moins tous les partis politiques. Et ces partis politiques doivent comprendre que c'est vraiment inévitable. Nous n'avons pas d'autres options aujourd'hui d'élever. Nous devons nous mettre ensemble et parler. Et nous pouvons dire que la Constitution, elle sera violée, évidemment. On ne peut pas au moins.
On ne peut pas recevoir la France aujourd'hui. On n'est pas en mesure de respecter la Constitution. Merci beaucoup, Trésor. Vous estimez en deux temps qu'il faut que la classe politique dise la vérité aujourd'hui à la population autour de cette Constitution qu'on ne sera plus en mesure de respecter. Parce que déjà, le fait qu'on n'ait pas organisé les élections produit 5 ans après, on a déjà violé la Constitution. Mais. Et par rapport à la prise de position de l'opposition républicaine, vous estimez que c'est une question d'intérêt, mais il faut que chacun comprenne que c'est important de pouvoir lever les options aujourd'hui. Kevin, vous êtes en Mandaka. Bonjour, Kevin.
Bonjour, je ne suis plus en Mandaka, je suis en vacances à Kinshasa.
Ah, oui, c'est bon, Kevin. Bon séjour à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres. Vous savez qu'il y a cette question du respect de la Constitution. Ces débats, est-ce que le dialogue peut arriver aujourd'hui à faire respecter la Constitution et puis le dialogue lui-même que l'opposition républicaine accuse de ne pas être inclusif, pensez-vous vraiment qu'il y ait de résultats qui soient à mesure d'apporter ces climats apaisés qu'on souhaite pour les prochaines élections?
Ok, d'abord je vous ai pris en cours d'émission et je peux pouvoir répéter les autres, mais pour ce qui concerne le respect de la Constitution, je dirais que il serait un peu difficile parce que aujourd'hui, respecter la Constitution, c'est tenir les élections dans les délais. Or, pratiquement aujourd'hui, il n'est plus possible de tenir les élections dans les délais. Et ça devient peut-être une coutume parce que même par le passé, la RDC n'a jamais réussi à tenir les élections dans les délais. On s'en souviendra en 2011 et en 2006 lors du deuxième tour. Donc, c'est vraiment difficile. Mais pour ce qui concerne l'inclusivité, je commencerai par dire que dans les contextes actuels, on doit comprendre la notion d'inclusivité un peu autrement, parce que cela risque de bloquer les choses. Si l'inclusivité voudrait dire que tous les partis politiques qu'on compte dans les 400 ici dans notre pays, que ça puisse être représenté, cela ne va pas marcher parce que on ne va pas retenir que le parti politique, ça voudrait dire que lorsque le nouveau parti de M. Bruno Mavoumou ne se représente pas, donc il n'y a pas inclusivité. L'on doit comprendre l'inclusivité aujourd'hui comme, par exemple, la présence des personnalités les plus importantes du pays ou la présence des partis politiques les plus importants du pays. Voilà un peu parce que quand les gens de dialogue, on a la présence des Tchétchénie, on a la présence du MLP, on a la présence des Vital Kamerhe. Ça, ce sont les grandes figures, à part les autres que j'ai oubliées. Ça sera déjà quelque chose. Mais pour ce qui est maintenant de la facilitation, parce que je voudrais un peu faire mention, on doit aussi comprendre la facilitation comme une sorte de médiation, à travers laquelle le médiateur ou le facilitateur joue le rôle de rapprocher les parties en conflit. Et son importance ne se montre que sur le plan des formes, et non sur le plan des fonds. Parce que c'est le parti en conflit qui doit pouvoir discuter et trouver des solutions de commun accord. Ce n'est pas les facilitateurs qui doivent prendre la décision à leur place. Cependant, il n'en est pas le cas pour M. Eden Coach qui a oublié son rôle. Il n'est pas partie prenante en soi. Eden Coach n'est pas partie prenante en soi. Il dépend de la volonté politique, en fait, de la volonté des politiques du pays, de leur volonté de dialoguer ou pas. C'est pourquoi j'illustre le cas. Je donne l'exemple de la compétence lors de la saisine de la Cour internationale de justice qui demande, qui est régie par le principe du consensualisme, c'est-à-dire lorsque l'une des parties n'accepte pas la compétence de la Cour se déclare non saisie. Voilà de là où nous sommes. Et par ailleurs, je voudrais encore ajouter, même si l'opposition politique apparaît un peu très exigeant vis-à-vis de son interlocuteur, il faut également dire que la confusion qu'on a aujourd'hui autour du dialogue politique est de la faute d'abord du gouvernement. Et puis, ce sera la faute du facilitateur lui-même qui veut plutôt devenir complicateur. Pourquoi j'ai dit la responsabilité du gouvernement? La responsabilité du gouvernement, ça tient compte de sa dernière décision qui portait sur la libération des prisonniers politiques. On pensait que le gouvernement allait faire des concessions énormes en libérant tous les prisonniers politiques proposés par l'opposition politique. Or, concrètement, il n'en est pas le cas. La liste de 23, c'est 20 combien là, ça ne contenait personne, et les 4 personnes, il n'y a aucun prisonnier politique. Ça bloque les choses. Et il a essayé un peu d'en faire en erreur, parce que ça s'est penser qu'on a répondu à un préalable.
Et il a pu procéder au lancement de. Oui, voilà, il a procédé au lancement de travaux du comité préparatoire. Merci beaucoup, Kevin. Vous, dans le premier volet, vous estimez qu'on ne se voile pas la face. Il sera difficile de pouvoir aujourd'hui évoquer le respect de la Constitution, mais c'est difficile aussi de considérer l'inclusivité du dialogue comme la présence de tous les partis politiques. On en a 517, je crois bien, selon les derniers statistiques. Autant mieux considérer les plus en vue ou bien les personnalités, et c'est autour de ça qu'on peut s'est fédéré. Et vous avez aussi prestigié le rôle que joue le facilitateur autour de cette question. Vous estimez qu'il devient. Il agit plus comme partie prenante dans les conflits plutôt qu'il facilitateur. Merci beaucoup, Kevin. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Professeur Félicien Kabamba, si nous pouvons dire quand même, disons que la Constitution, telle que nous l'avons eue après le consensus du Sun City, c'était considéré, c'était là-bas. Quand on regarde les préambules, on dit, bon, pour éviter les vérités que nous avons connues dans la légitimité du pouvoir, la contestation du pouvoir, nous mettons en place cette Constitution qui doit nous permettre d'ériger la manière dont la Troisième République devait être bâtie. Mais si on se rend compte aujourd'hui qu'on doit avoir des options politiques qui ne tiennent pas compte en réalité de ce que la Constitution prévoit, c'est comme je le disais, le dialogue lui-même, quand on y sort, c'est qu'on n'a plus une base juridique comme une constitution qui puisse nous permettre de régir encore l'exercice du pouvoir, l'exercice même, la gestion même de l'État. C'est-à-dire que le dialogue, c'est un résultat qui fait éclater au grand jour la constitution considérée comme la loi fondamentale, alors qu'on se dise la vérité. La porte est ouverte, déjà on peut le dire ainsi, pour que à la prochaine la Russie elle-même ne puisse pas peser dans le débat politique aujourd'hui.
La Constitution contient un certain nombre de valeurs qui mettent l'ensemble du Congolais d'accord. C'est autour de ces valeurs que nous avions construit notre unité, que nous avions construit véritablement le socle. Cette unité du peuple congolais. Il ne faut pas remettre ces valeurs en cause. Il ne faut pas marcher sur ces valeurs. Il faut, par tous les moyens, que nous soyons porteurs de ces valeurs par lesquelles nous le définissons. Et les élections, et ça il faut le dire, est l'un des piliers de la démocratie. Quand elles ne sont pas organisées dans le délai, ou quand elles sont mal organisées, elles sont source de tensions et de crises. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous diriger vers la non-organisation des élections dans le délai. Ce qui présage déjà une crise plus grande. Il y aura comme conséquence, 1, la délégitimation des institutions de l'État. Et quand on a des institutions auxquelles certaines personnes, dans lesquelles personnes ne se reconnaissent pas, il y a véritablement un problème. Deuxièmement, on risque d'avoir un phénomène d'accélération du processus de la démonopolisation de la violence de l'État. Et quand vous regardez déjà ce qui se passe au pays pendant tout ce temps, l'État congolais n'avait pas le monopole de la violence. Avec la délégitimation des institutions, on verra donc s'accélérer le processus de la démonopolisation de la violence de l'État, ce qui sera très dangereux. Et troisièmement, on pourra entamer une sorte de liquéfaction de l'unité de l'État. Avec, bien sûr, un risque aux pratiques, hein, un risque, si vous voulez, de retour aux pratiques de conquête du pouvoir par la violence. C'est là les risques auxquels nous courons maintenant. Il faut absolument qu'on arrive à anticiper ces conséquences. Et l'anticipation de ces conséquences, les aides ont trouvé qu'il fallait y aller par le dialogue. On pouvait aussi y aller par le respect strict de la Constitution, en organisant les élections dans le temps, dans le délai. Ce n'est pas impossible, c'est encore possible, mais il faut qu'on en ait la volonté. C'est encore possible. Si on dit, on y va, on va y aller. Et chaque minute, chaque heure, chaque seconde va compter. De sorte qu'à l'heure indiquée, on aura des décisions. À ce moment-là, il n'y aura pas d'enrôlement, il n'y aura pas on va juste rester dans la première option, avec toutes les conséquences que cela en déclare. Alors, ceux qui parlent du dialogue aujourd'hui disent, étant donné que nous voulons faire très bien les élections, en tenant compte de tous les autres, électeurs, nous n'avons l'intention d'exclure personne, nous allons enrôler les nouveaux majeurs, nous allons tenir compte de anciens non-inscrits, nous allons également tenir compte de la diaspora. Et donc, tous ces acteurs peuvent déterminer qui est véritablement le vainqueur aux élections. Et donc, il faut donc accepter que le temps est contre nous. Nous pouvons tenir un dialogue, lever les options. Mais seulement, là, tout le problème, c'est que, dans la plupart des cas, les dialogues politiques qui ont été tenus en RDC se sont attaqués plus aux symptômes et non à la racine du mal. Le dialogue est devenu, en RDC, si vous voulez, un moyen, un tremplin pour accéder au partage du pouvoir. Et considérer que cet enjeu-là, il ne résout pas le problème. Il répond plutôt aux appétits des politiciens. Il ne résout pas le problème fondamental. Et il faut absolument un dialogue qui s'attaque à la racine du mal, qui s'attaque au problème, et de manière durable. Il ne faut pas faire des petites solutions pour répondre aux appétits individuels et de manière circonstancielle.
Et quand on regarde aujourd'hui dans ces discours, on estime qu'avec le dialogue, on pourra avoir des élections apaisées. Est-ce que le fait déjà que les gens disent, oui, mais voilà, écoutez, on se met d'accord, on va répondre à la CENI, on va faire ceci, on va mettre en place des mesures, on a des élections, est-ce que c'est une garantie que les gens ne vont pas contester les résultats de ces élections? Parce que le fait de tenir l'élection, c'est autre chose. N'avoir confiance dans les résultats, même quand on est sorti de dialogue, ça aussi, c'est une autre paire de manches. Quand on est sorti de Saint-Sixi, on a eu la Constitution, on s'était dit, voilà, on se met d'accord, mais ça n'a pas empêché qu'on ait des troubles en 2010, ça n'a pas empêché qu'on ait des troubles en 2011. Quelles sont les garanties que les résultats du dialogue vont faire, que les gens aient confiance aux résultats qui vont être publiés?
Aucune garantie en cela. Il n'y a aucune garantie. Évidemment, les élections qui sont organisées dans la plupart des cas, on l'a vu depuis Saint-Sixi, c'est des résultats, c'est des élections contestées. Et donc, ce qui avance l'argument de mieux organiser les élections, je crois que c'est plutôt un argument par rapport aux positions personnelles que sa famille politique ou son parti soutient. Mais il n'y a véritablement pas de garantie que n'ayant un nouveau fichier électoral, eh bien, ce serait l'unique manière
de mesurer d'accord le résultat. Mais quand on écoute notre ami Kevin tout à l'heure, il dit le caractère inclusif de ces dialogues, parce que c'est aussi ça même la base même de toutes les contestations, parce que si tout le monde n'est pas dans ce dialogue, on considère que les résultats n'engagent pas tout le monde. On a vu avec les 100 résolutions des contestations, aucune, à part le fait que les gens ont formé le gouvernement, mais le reste des 100 des nanonefs. Je me rappelle bien des résolutions, des concertations, rien n'a été appliqué. Est-ce qu'il faut considérer le participant en termes de poids politique, des partis politiques 517? Notre ami pense qu'il faut voir les partis en vœux, des personnalités. Est-ce qu'autour de cette question, on peut arriver vraiment à avoir cette unanimité après ce forum? Disons-nous quand même que ça a déjà commencé.
Alors, dans la configuration politique actuelle, il est très difficile que tous les partis politiques participent au dialogue, parce qu'ils sont très nombreux. Et quand vous allez au niveau de la société civile, il y a réellement les autorités traditionnelles et autres. Donc finalement, le dialogue est devenu un espace que tout le monde veut se discuter. Et il sera donc très difficile que l'ensemble des acteurs qui émettent le vœu de participer, eh bien, qu'ils soient considérés comme partie prenante. Alors, là, on a quand même besoin qu'ils soient inclusifs. Ça veut dire qu'il y a là des arbitrages à faire au niveau des acteurs politiques quand même. Ils doivent, on ne peut pas, si vous voulez, refuser un droit de participer à un citoyen, mais on ne peut pas non plus faire du dialogue politique une affaire de tous les Congolais. Et les Congolais, c'est plus de 80 millions, donc on ne peut pas avoir un dialogue de tous les 80 millions. Mais quand ils sont organisés en cartel, en famille, eh bien, c'est partant de là qu'ils peuvent s'organiser pour déléguer leurs représentants. Mais il est très difficile que chaque parti politique soit organisé de manière individuelle.
Et Josephine, vous nous appelez de Boston, aux États-Unis d'Amérique. Vous avez suivi les uns et les autres, madame. Quel est votre point de vue? Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot. Hein. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Vous savez, j'aime les Congolais, mais par moments, les Congolais la balle est très haute, hein, mettons la balle à terre. Comme toi, Pierrot, tel que tu es là avec ton émission, ça prend une heure du temps. C'est ça, on appelle ça le calendrier.
Mm-hmm.
Tout ce que nous faisons, quand nous réveillons le matin, c'est dans un calendrier. En anglais, on dit ça « schedule ». Et le calendrier, là, tout le temps, chacun de nous doit regarder son calendrier. OK, nos intervenants, la plupart, ont parlé de les élections, et respecter la
Constitution
par les élections, ou bien, si on ne respecte pas la Constitution, on va aller au-delà de ce que la Constitution dit. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Le dialogue dans la logique de celui qui a demandé le dialogue, c'était pour dire que c'est difficile d'organiser les élections, parce que les élections devaient se programmer depuis 2012. On devait mettre l'argent à côté, on a déjà tout dit comme ça. Le dialogue, c'était pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Comme ça, on ne va pas respecter la Constitution. Comme ça, on voit comment on va faire. Parce que le président qui est en place aujourd'hui, il est exclu par la Constitution par deux fois. Il a déjà fait deux mandats. Il est exclu déjà. Et puis, c'est lui qui était président, et puis il n'a pas pu organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est la deuxième fois. Donc, il est exclu dans tout ordre, il est exclu deux fois par la Constitution. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution.
Mm-hmm.
Parce que, hier, on a parlé, il y a les impunités. Si la personne qui n'exécute pas ce qu'il devait faire, ce que la personne devait faire, on doit le punir. Parce que quand on laisse le président, on dit non, on va pas organiser les élections parce qu'il y a eu ça. Qui n'a pas fait tout pour que les élections ne soient pas organisées? C'est le président, c'est lui qui était le président. Donc il est exclu deux fois par la Constitution. Alors le dialogue est là pour dire que, monsieur, vous êtes exclu deux fois. Moi, ce que je vais demander, je termine par ici. Ce que je vais demander, inclusivité des dialogues. Le Congolais n'a pas la logique. Le Congolais ne peut pas se mettre ensemble. Appelons le président Joseph Kabila. Appelons le président de l'UDPS, Tshisekedi. Mettons-le sur la table. Qu'ils fassent le dialogue à deux. On leur pose des questions. Et puis on tente à trouver un moyen pour qu'il n'y ait pas le mort.
Mm-hmm.
Parce que apparemment ils disent qu'il y aura le mort. Pour qu'il n'y ait pas le mort, messieurs, deux mandats, deux fois, 10 ans, c'est fini. Et puis vous n'avez pas pu organiser les élections. Ça c'est une faute encore. Vous ne pouvez pas même aller dans les 16 mois que la CENI est en train de demander. C'est ça. Mettons les deux hommes là sur la table. Ça se fait partout au monde.
Voilà, et
partout.
Vous l'avez dit. Et d'ailleurs, je me rappelle. Merci beaucoup, madame. Je me rappelle plusieurs fois quand nous avions reçu dans cette émission les différentes personnalités de l'opposition. Il y en a qui ont estimé que cette question devait être réglée par les deux camps. Même l'UDPS me l'a dit plusieurs fois dans parole aux auditeurs, que la question concernait l'UDPS qui estimait qu'il y avait une crise de légitimité depuis 2011, qui devait discuter avec le camp du président Joseph Kabila. Et vous, vous estimez, madame Joséphine, qu'il faudrait que les deux là se mettent et qu'ils discutent autour de cette question, en estimant que ça n'engage pas tous ceux qui sont en train d'y aller aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, deux fois, le mandat qui prend fin, exclu par la Constitution, mais une deuxième responsabilité en termes de n'avoir pas organisé l'élection, et dire que vous n'êtes pas à concerner, et que d'un côté, le président de l'UDPS soit là, et vous estimez que c'est ça même la seule manière dont cette question peut être résolue. Mais disons-nous quand même la vérité, que les travaux qui ont commencé, préparatoires, les deux ne sont pas directement impliqués. Le président de l'UDPS est à l'extérieur du dialogue. Le président de la République, lui, il a convoqué selon l'ordonnance présidentielle, c'est qu'il n'est pas partie prenante en termes individuel, mais de la famille politique. Alors voilà, c'est que les deux sont, on peut dire, assez éloignés des discussions directes. Merci beaucoup, Madame Confiance. Vous êtes à Kinshasa en ce moment. Bonjour, Confiance.
Bonjour, Mbote Jambo, à tous les occupistes de la Radio de la Paix.
On vous écoute.
Oui, je suis content que nous traitions ce sujet aujourd'hui, mais j'aimerais bien, Pierrot, revenir au sujet, parce qu'apparemment, bon, nous nous éloignons petit à petit du sujet. Moi, je pense que la clé du problème, c'est l'inquiétude de l'opposition républicaine, que vous, comme vous l'aviez introduit. Quand elle dit « pas sous formant », oui, mais nous nous rendons compte que les dirigeants ou la classe politique que nous avons est un ensemble des réacteurs au lieu d'être des acteurs. Tous ceux qui réagissent aujourd'hui contre ceci ou cela devraient en principe se poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait comme action, c'est-à-dire comment avons-nous agi pendant deux législatures entières et qui est à la base de ce que nous cherchons à résoudre tardivement aujourd'hui. L'inquiétude de l'opposition républicaine aujourd'hui est fondée parce qu'elle nous met en garde contre la concertation bis, le second round des concertations bis, parce que les concertations n'ont rien produit à cause de ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, l'inclusivité, ceci, cela, ainsi de suite. Quand on réclame le dialogue, c'est-à-dire la concertation, quand on accepte le dialogue, nous posons des questions. La racine de ce mal que nous cherchons à résoudre aujourd'hui n'est rien d'autre que le respect de nos propres textes et surtout le texte des textes, la loi de toutes les lois qui est la Constitution. Moi, je pense que nous sommes en train de perdre le temps et l'argent du contribuable congolais qui aurait dû servir à rendre service à notre pays et au peuple congolais. Nous sommes en train même de chercher à compliquer nous-mêmes la vie de notre nation en cherchant à légitimer la violation de notre propre constitution, c'est-à-dire la gestion du pays par des moyens géniteurs des conflits. La clé du problème est simple. Si nous respectons la loi, nous n'aurons même pas besoin de concertations, nous n'aurons même pas besoin de parce que, moi j'ai l'impression que ce soit les hommes politiques actuellement, que ce soit Eden Kodjo et sa facilitation, que ce soit la communauté internationale, il y a des gens qui veulent que ça brûle. Parce que je ne comprends pas ça, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et c'est seulement qu'on respecte les
décisions.
Ça, c'est la énième illusion que nous sommes en train de
faire. La même chose.
Au début de cette crise, la clé du problème, c'est lui qui n'a pas organisé les élections, accepte de partir. Que ceux qui peuvent faire mieux viennent gérer ce pays. Et moi, je pense que ça résoudrait le problème.
Alors, on estime peut-être que la décision de partir doit se discuter autour du dialogue. Il reste encore à savoir les contenus. Professeur, peut-être qu'on va placer un mot rapidement. Madame Joséphine insiste beaucoup sur les personnalités. Il insiste qu'il y a le président de la République, il y a le président de l'UDPS. Au début même de nos discussions, c'était ça. L'UDPS qui estimait qu'il fallait discuter avec le chef de l'État Kabila. Je me rappelle Vital Kamerhe dans cette émission. Il a dit, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à ce que Tshisekedi se mette là, Kabila se mette là, et que moi, je vais mettre les autres qu'on discute cette question. Ça ne va pas demander d'avoir des millions de personnes dans une salle. Voilà. Et Confiance revient encore pour dire la clé du problème, c'est le respect des textes rapidement avant qu'on écoute les deux derniers auditeurs.
Je crois que la logique, c'est plutôt qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se mettent autour de Tshisekedi. Il s'agit là de l'acteur, donc de l'acteur de l'opposition. Et il y a une autorité morale, si vous voulez, qui incarne la majorité. Alors, quand vous regardez l'anatomie de l'opposition aujourd'hui, vous vous rendez compte que véritablement, il y a des gens qui ne font pas partie du rassemblement, mais qui ont un certain poids et qui ont aussi droit à participer au dialogue politique. Ce qui rend donc évidemment l'équation un tout petit peu difficile s'il faut avoir que Tshisekedi et Kabila. Il faut donc, à mon avis, pour qu'on parle de l'inclusivité, tenir compte de toutes les forces politiques et sociales du pays. Et c'est de cette manière-là qu'on peut véritablement organiser.
Mais si on revient sur cette question, tout ce qu'il a mis là, c'est parce que l'UDP s'estimait que c'est quelqu'un qui disait que ma victoire a été volée en 2011. Et pendant ce temps-là, l'ensemble de l'opposition n'estimait pas que le président Kabila n'a fait pas gagner les élections. C'est pourquoi on estimait que la crise était née entre Tshisekedi qui contestait la victoire du président Kabila en 2011. Toutes les autres questions liées aujourd'hui à la transition aux élections n'étaient même pas évoquées pendant cette période, au début même de cette discussion entre les dialogues.
Mais alors, le contexte a beaucoup évolué. Est-ce que la contestation électorale, elle avait eu lieu après les élections, vers 2011, donc 2012 également. Alors, pour le moment, la question ne se pose plus beaucoup plus, donc se pose plus en termes de contestation électorale, mais se pose plutôt en termes de la non-organisation dans le délai des élections prévues en 2016. Et donc, du coup, la question des élections, si vous voulez, le contentieux électoral de 2011 semble plus ou moins appartenir au passé. Et pour le moment, on est en train de voir les élections de 2016. Voilà. Par rapport à cette question-là, des élections de 2016, eh bien, la dame a évoqué la responsabilité du gouvernement en place qui n'a pas voulu organiser les élections dans le délai, évidemment, en avançant plusieurs prétextes.
François Lambert, vous êtes à Lubumbashi, on va vous accorder une minute ainsi que Gérard qui est à Mouilé-Guitou. François Lambert, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et cette question de... Oui, on a évoqué abondamment le respect de la Constitution, le dialogue, l'inclusivité, mais on se rend compte que, qu'on se dise la vérité, à un certain moment, on s'éloigne de plus en plus de cette question de respect de la Constitution et même de l'inclusivité autour de ce dialogue. Rapidement.
Merci beaucoup. Je crois que je vais partir à partir de l'article 74 de la Constitution. Cet article qui stipule... La façon que le président de la République doit prêter serment devant le public, devant le peuple et devant Dieu. Dans cet article, il est en train de dire que je jure devant le public, devant Dieu, devant le peuple congolais, voici ce que je vais faire, je vais respecter les textes des lois de notre pays. Et de par cette déclaration, je crois qu'il peut se rappeler et comprendre que le respect de la Constitution est très important. Et parce qu'il n'a pas respecté la Constitution, ça veut dire que déjà l'affectation de serment qu'il a faite, c'est quelque chose qui ne l'honore pas, parce qu'il n'a pas respecté. Bon, quand cela me tient, je prends tout de suite la déclaration de M. Eden Kodjo, qui estime que le dialogue va se tenir de façon inclusive et surtout de façon à respecter la Constitution et la résolution 2277. Est-ce que M. Eden Kodjo pense vraiment qu'il va initier le respect des lois fondamentales de notre pays pendant que nos responsables politiques, l'opposition même la majorité, personne ne respecte les principes de la liberté. Par exemple, à l'opposition, nous voyons des leaders qui sont leaders des années et des années. Ils n'ont pas l'idée ou ils n'ont pas le sens d'alternance politique, de même qu'à la majorité. On n'a pas la culture d'alternance politique. Alors, si et seulement si nous, Congolais, nous n'avons pas cette culture de changer, nous n'avons pas cette culture d'alternance politique, est-ce que c'est quelqu'un d'autre de l'étranger, de qui va venir instituer ça? Je crois que quand il dit respect de la Constitution, il veut nous voiler la face pour dire qu'ils vont respecter l'article 70, qui pense que le président de la République doit continuer avec son mandat jusqu'à ce que le nouveau président sera élu et va pouvoir entrer en fonction en ce moment-là qu'il va laisser les responsabilités de la politique. Mais ce qui est vrai, c'est que s'il veut se fier à cet article, il viole autrement l'article 75 qui dit le président de la République, une fois arrivé à la fin de son mandat, quelles que soient les différentes hypothèses qu'on est en train d'émettre, telles que empêchement, ainsi de suite, il devra laisser le pouvoir au président du Sénat. Si seulement si ils veulent que nous puissions respecter la Constitution et les principes. Moi, je crois que il faudra respecter, donner la responsabilité au président du Sénat comme c'est prévu, au lieu de pouvoir dire non, que le président continue comme c'est un caractère manipulatoire. Mm-hmm. Vous savez, depuis le commencement, quand nous avons voté notre constitution par référendum, est-ce que vous vous imaginez qu'il connaissait depuis tous ces temps? Et il pouvait y arriver un certain moment où le Congo va arriver à des moments comme ça, et l'article 70 pour eux devait être une défense pour eux. Donc, déjà au départ,
quand ils étaient en train de faire la publicité pour que nous puissions voter pour, oui, la Constitution, alors qu'elle n'était même pas vulgarisée, personne ne connaissait autant de qu'eux-mêmes.
Et là, vous avez dit, François, dommage, François, qu'on sera le plus loin, il faut permettre aussi à Giras de s'exprimer. Vous dites que utiliser les termes restés de la Constitution dans cette affaire du dialogue, c'est un caractère manipulatoire, parce qu'on sait qu'on peut bien évoquer le respect de la Constitution, mais dans un sens qui favorise peut-être un camp et qui ne favorise pas un autre. On va vous écouter rapidement, Gérard, peut-être en 40 secondes pour permettre au professeur de conclure cet échange. Gérard, vous êtes à mon avis du tout.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi. À notre avis, nous pensons que nous ne pouvons pas dire qu'il faut écarter la pensée ou l'idée du respect de nos lois. Il faut respecter ça, sinon ça sera la foi. Et à M. Kodjo, nous nous disons que M. Kodjo doit prendre seulement courage de démissionner, parce que il n'a qu'à voir ce que lui-même a appelé ouverture des travaux préparatoires du dialogue, ce qui s'est passé, qu'il prenne courage de démissionner.
Voilà, vous estimez que c'est de cette façon qu'on peut régler la question. Merci beaucoup, Gérard, professeur. Respect des constitutions, résolution 2277. Il faut quand même, comme le disait Alain, qu'on se dise la vérité en face. Est-ce que les dialogues peuvent quand même permettre aux gens de se dire la vérité en face autour de ces principes majeurs?
Oui. Véritablement, le dialogue doit être un dialogue qui porte sur les valeurs, sur le principe. Que les dialogues ne doivent pas marcher sur la Constitution, sur les textes qui régissent le pays. Non. Les dialogues ne sont pas un renoncement aux textes qui nous régissent. Non, les dialogues doivent être un dialogue qui met les différents Congolais d'accord sur le principe, sur les valeurs, qui sont les valeurs de l'alternance politique, qui sont les valeurs de la démocratie, qui sont les valeurs, si vous voulez, du respect des textes. C'est de cette manière-là que nous pourrons bâtir un Congo fort, un Congo auquel tous les Congolais croient, mais aussi un Congo prospère. Nous n'avons pas besoin d'avoir un Congo jungle.
Merci beaucoup, professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets, mais n'oubliez pas que les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe des productions, Jean-Claude Chiala, qui était à la mise en onde, Julie Pisa, au standard et à la réalisation. Puis voilà, je vous ai présenté ce magazine sous la supervision de Julien Niamoni. On se retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Mais l'émission, c'est sur www.radiocapi.net. Au revoir.